Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère. Sur le 88.4, vous écoutez actuellement et en direct l'émission Écoforum, l'émission qui donne la parole aux actrices et aux acteurs des transitions écologiques, solidaires et culturelles à Marseille et sa région. Nous sommes en direct de 19h à 20h et vous pourrez retrouver cette émission demain en rediffusion de 9h à 10h ainsi qu'en podcast sur Internet lorsque vous cherchez Écoforum Radio Galère sur Internet. Nous sommes sur Radio Galère et c'est un petit peu la galère puisque d'habitude on est 4 dans l'équipe et ce soir je suis tout seul avec une voix semi-cassée et pourtant le programme est passionnant. Je suis Marin et en première partie d'émission, nous invitons Hamid. Bonsoir Hamid.
Bonsoir.
Hamid, vous êtes militant pour les sans-papiers. Vous avez entre autres fait une marche entre Marseille et Paris et vous êtes aujourd'hui bénévole à la CIMAD. Et vous avez également ouvert une permanence avec ce qui s'appelle le CHO3, c'est-à-dire le collectif des habitants organisés du 3e arrondissement. Vous accompagnez des centaines de dossiers et vous êtes engagé pour la Journée mondiale des réfugiés le 18 décembre prochain. Et ce que nous avons prévu pour cette première partie d'émission, avant que je vous présente nos autres invités dans la deuxième partie, c'est que vous puissiez un petit peu nous parler de votre parcours et puis des différentes actions que vous engagez. Donc je vous laisse la parole pour vous présenter, Hamid.
Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Galère. Je vous remercie pour cette invitation. Donc je me présente, je m'appelle Hamid, je suis bénévole à la CIMAD, une association qui est connue sur les questions migratoires, et aussi je suis membre fondateur d'une association pour les sans-papiers et aussi membre dans un collectif dans le 3e arrondissement qui s'appelle collectif des habitants organisés du 3e. Si je me permets de présenter particulièrement le collectif des habitants organisés du 3e, c'est un collectif au fait qui a été créé pendant le premier confinement. C'est un collectif qui lutte à côté des habitants du 3e contre les inégalités, les injustices, le mal logement et il défend les personnes en situation de précarité et l'active sur plusieurs fronts aussi. Il compte des campagnes qui va, je cite toutes les campagnes rapidement. Il y a une campagne pour la métropole, pour les transports. D'ailleurs, c'est la bataille qui a été au fait gagnée il y a quelques mois. C'est que toute personne en séjour, je peux dire en séjour irrégulier, ou bien toute personne exilée, détenteur d'une carte aide médicale d'État qui bénéficie actuellement de 50% de réduction après un long combat avec la métropole, bien sûr. Donc, on a aussi une campagne, un compte pour tous. Comme vous savez, les personnes exilées ou bien les demandeurs de papier. On utilise ce terme-là, demandeur de papier, parce que le mot sans papier, on veut bannir ce mot-là déjà. Le mot sans papier, c'est pas un mot vraiment. Donc, on dit beaucoup plus demandeur de papier. C'est comme un demandeur d'asile. On dit un demandeur d'asile. Et pour un sans papier, on dit un demandeur de papier. Parce que il n'y a pas quelqu'un qui est né sans papier. Toute personne née a au moins un certificat de naissance là où figure un nom et prénom et une date de naissance et un lieu de naissance et le nom des parents, bien sûr. Donc
justement, en parlant de demandeurs de papier, lorsqu'on préparait l'émission, vous m'expliquiez que vous aviez des ateliers, des permanences juridiques justement pour accompagner ces personnes et pour qu'elles puissent être accompagnées parfois dans les méandres de l'administration française qui ne sont pas toujours très simples à comprendre, y compris lorsqu'on les connaît bien. Est-ce que vous voulez un petit peu expliquer ce que vous faites pour accompagner ces personnes dans leurs demandes ?
Oui, ça fait depuis un peu plus d'une année. On peut dire que le collectif compte beaucoup de personnes demandeurs de papiers comme membres du collectif. Donc, c'est dans cette logique qu'on a pensé au fait de mettre en place des ateliers juridiques sur la régularisation. Au fait, le but de ces ateliers, c'est de mettre les gens sur des pistes fiables et même les former à devenir un avocat de leur situation personnelle. Une fois formé, c'est de lui montrer dans quels critères il rentre, dans quelles cases il faut cocher pour sa situation. Et parce qu'avec la préfecture, la moindre erreur de cocher une case là à qui vous ne répondez pas, ou bien si vous ne répondez pas à une condition qu'il faut remplir, là vous voyez que votre dossier va être refusé. Et après, c'est des conséquences peut-être graves si vous faites une demande infondée ou bien sur un critère qui ne correspond pas à votre situation. Donc, dans cette logique, on essaie d'aider les personnes et les mettre sur une bonne voie, de façon à ce que, au moins, quand ils font une demande de titre de séjour, et il n'y a pas, au fait, actuellement, il n'y a pas beaucoup de plein droit dans les demandes de titre de séjour. C'est une admission exceptionnelle au séjour. Une admission exceptionnelle, ça reste à la volonté du préfet, ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire du préfet. Vous faites un dossier, vous classez toutes les preuves par année, par tout, mais tout ça, ça ne suffit pas. Même si vous avez un dossier béton, mais ça ne reste toujours à la bonne volonté du préfet. Il apprécie le dossier à sa façon, comme il veut, il peut attribuer un titre de séjour comme il peut refuser un titre de séjour.
Après, heureusement, grâce à vos conseils et à l'accompagnement que vous apportez, vous essayez de faire en sorte qu'il y ait le plus de chances possible pour que le préfet puisse prendre des décisions discrétionnaires qui aillent dans le sens favorable pour ces demandeurs et de papier. Et justement, ces personnes-là qui peut-être nous écoutent ce soir, où est-ce qu'elles peuvent venir vous voir ? Est-ce que vous avez des locaux, des endroits, des permanences avec des moments précis aussi dans la journée pour que... voilà, elles disent, moi j'ai tel enjeu et puis j'aimerais qu'on puisse m'aider là-dessus.
Donc, une très bonne question. Donc, les ateliers juridiques, ça se passe une fois tous les 15 jours, c'est mercredi. Actuellement, c'est au comptoir de la Victorine, au 29 rue Toussaint, dans le 3e arrondissement. C'est tous les mercredis entre 15h et 17h. Et en présence des juristes et des bénévoles de la CIMAD et des membres du CHO 3. Et un mercredi sur deux, on fait des permanences juridiques. Là, on reçoit des situations individuelles des personnes, bien sûr, pour les aider dans leur démarche administrative pour, au fait, déposer une demande de titre de séjour.
Voilà, parce que tout à l'heure, vous m'aviez dit que vous aviez des permanences juridiques et vous avez des ateliers aussi. Est-ce que vous voulez un petit peu présenter l'un puis l'autre et puis la différence qu'il y a entre ces deux propositions ?
Donc, pour les ateliers juridiques, c'est genre d'une formation dans le domaine juridique. C'est une formation sur les textes et les lois sur la régularisation. C'est pour expliquer aux personnes, il y a le plein droit, il y a le pouvoir discrétionnaire. Le plein droit, c'est tout ce qui est là où il y a une loi, là où on va s'appuyer sur une loi. Mais après, pour le pouvoir discrétionnaire, c'est de l'admission exceptionnelle. Ça reste toujours au pouvoir du préfet d'en décider.
D'accord. Voilà. Et alors, du coup, ce qui est aussi un peu intéressant, c'est que le fait de venir lors de ces ateliers, ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Déjà parce qu'il y a des juristes, des bénévoles, et puis il y a des personnes qui sont à la CIMAD et qui peuvent venir vous aider à la fois dans les démarches juridiques, et puis j'imagine qu'il doit y avoir un soutien qui peut être un peu plus large également lorsqu'on a d'autres formes de questions. Puis aussi, ce dont vous aviez envie de parler, c'est que vous avez une mobilisation assez forte qui arrive là le 18 décembre avec une manifestation pour aider ces personnes qui sont demandeuses de papier. Est-ce que vous avez envie d'en parler davantage sur les différentes actions que vous comptez mener?
Donc, à l'occasion du 18 décembre, je le rappelle, c'est la journée internationale des migrantes et migrants qui coïncide avec le 18 décembre. Donc, sur Marseille, il y a deux collectifs de demandeurs de papiers qui sont sur le terrain. Ça fait maintenant depuis 3 ans. Donc, il y a le collectif du CDP 13 que je salue à l'occasion et l'association Ensemble 13. On est à la quatrième ou bien la quatrième semaine de préparation pour cette journée. Et il y a un appel pour la manif du 18. Il y a on prépare une grande manifestation qui va prendre départ à partir de la porte d'Aix en montant jusqu'à la gare Saint-Charles et en descendant sur le boulevard d'Athènes pour au final atteindre l'ombrière du Vieux-Port. Donc cette manif, elle est signée et soutenue par plusieurs associations telles que la CIMAD, le RESF, il y a la Ligue des droits de l'homme, il y a le réseau Hospitalité, il y a le MEMBA, il y a Solidaire 13, il y a la CGT, il y a une vingtaine de signataires de cet appel à manifester pour le 18. Et le 18, ça va pas être une célébration de la journée en elle-même, mais on voulait que ça soit un point de départ et un point de départ pour d'autres actions qui vont venir, sachant que à ce moment-là, ça parle beaucoup de l'immigration et des lois beaucoup plus dures on attend des lois beaucoup plus dures et beaucoup plus, si vous voyez, avec des circulaires et des recommandations du ministre de l'Intérieur pour les préfets, pour au fait attribuer et systématiser les OQTF pour les demandeurs de titres de séjour ou bien lors des contrôles d'identité dans la rue ou bien dans les places publiques. Donc c'est pour ça que l'appel à la manif, déjà c'est bien le titre, c'est « Lève-toi, migrant, pour tes droits ». Et en bas, c'est bien noté, le migrant. Actuellement, il y a une assimilation entre l'immigration et la délinquance. Donc nous, on veut expliquer par là, dire que le migrant, il est en danger, mais ce n'est pas un danger. C'est le migrant qui est en danger actuellement.
Eh bien, on espère que c'est une parole qui porte, qui est écoutée, que là, le fait que vous puissiez l'exprimer ce soir à la radio puisse résonner dans les oreilles et les cœurs des personnes qui nous écoutent. Et donc, on a bien entendu qu'à la fois lorsqu'on est demandeur de papier et également lorsqu'on a envie d'aider des personnes, eh bien, on peut venir vous rejoindre tant sur la manifestation du 18 décembre que lors des différentes permanences que vous organisez avec le collectif des habitants organisés du 3e arrondissement à la CIMAD ou avec d'autres organisations comme vous venez de les donner à la radio. C'était une petite entrevue, comme là on s'était dit ce soir en préparant cette émission, que c'était important qu'on puisse parler de cet événement qui arrive prochainement, puisque c'est le 18 décembre, et donc on espère chacune et chacun que vous avez noté cette date dans vos agendas, et ça sera aussi, c'est l'occasion en fait de prendre date, puisque comme on s'était dit, notamment avec Émile Sabor, que vous connaissez bien, qui peut-être nous écoute ce soir, on aura une autre émission sur ce sujet-là, pour rentrer plus en détail sur les différentes actions qui sont menées, les différentes propositions qui existent à Marseille, pour accompagner toutes les personnes demandeurs de papiers dans la ville. Merci Hamid pour,
merci à vous aussi
pour votre intervention. Et donc voilà, on espère que vous avez pu noter ces informations. Et donc, on va faire une transition qui est une transition qui est un petit peu radicale parce que la suite de notre émission n'est pas du tout sur le même thème. Et en même temps, lorsqu'on s'intéresse aux questions de transition environnementale, solidaire et culturelle, c'est aussi parfois intéressant de comprendre que les sujets sont liés les uns avec les autres, qu'on ne peut pas décorréler la question de la justice sociale, des questions environnementales et des questions culturelles. Ce sont des sujets qui sont intimement liés. Et principalement, lorsqu'on parle des migrations, souvent des personnes qui viennent parfois du sud de la Méditerranée, de pays qui sont dans des situations qui peuvent être dramatiques, tant parce qu'ils sont touchés par la guerre que, par exemple, pour le Pakistan, qui vivent des conditions qui sont affreuses avec des pluies diluviennes. Et donc là, on va partir sur un autre sujet a priori. Et pourtant, c'est quand même important de parfois se rendre compte que ces sujets ont des connexions les uns avec les autres. Et donc, c'est le moment d'annoncer la deuxième partie de l'émission, qui donc n'est pas sur le même thème et qui porte cette fois-ci sur la médiation scientifique. Quand on parle de médiation scientifique, pour continuer à essayer quand même de tracer un fil rouge, ça nous permet de trouver le pourquoi et le comment des choses et parfois aussi pourquoi est-ce qu'on a telle situation physique qui peuvent avoir telles incidences sur la vie des humains et avec certaines incidences dont on a parlé en première partie. Et donc c'est le moment pour moi de présenter nos invités de cette deuxième table ronde. Donc bonsoir à vous trois, puisque vous êtes trois autour de cette salle pour cette deuxième partie. Anna.
Bonsoir.
Vincent.
Bonsoir.
Et Félix.
Bonsoir.
Et donc pour vous présenter un petit peu les uns et les autres, les unes et les autres également, donc Anna et Vincent, vous êtes étudiants et étudiantes dans le master de médiation scientifique, de médiation information scientifique, médiation environnementale à l'AMU. Et Félix, tu es doctorant au laboratoire de mécanique, modélisation et procédés propres, le M2P2 à Marseille. Tu es diplômé de l'INSA et en 2020, et tu es passionné par les questions énergétiques et de propulsion spatiale. Et tu travailles aussi de point de vue bénévole pour faire de la médiation scientifique dans les collèges.
Presque.
Presque.
Oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. En fait, quand on est doctorant, on a le loisir, on a l'occasion de faire des missions complémentaires, on appelle ça. Certains font de l'enseignement et moi j'ai choisi la médiation scientifique, donc au sein de la cellule de culture scientifique et technique d'Aix-Marseille Université aussi. Voilà.
Merci pour cette petite précision dans la présentation que j'ai faite de toi. Et donc ce que je vous invite à faire, c'est que là, dans cette deuxième partie d'émission, avant la pause musicale, on puisse discuter de ce qu'est la médiation scientifique, puisque vous êtes trois praticiens, praticiennes finalement, ou en devenir pour l'être. Et donc peut-être que vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'est d'abord, et puis ensuite on pourra rentrer un peu plus dans les détails pratiques de ce que vous faites. Est-ce que vous avez une définition déjà à nous donner ?
Moi, ce que je dis la plupart du temps, très simplement, c'est on essaye de faire la passerelle entre la recherche, la science pure et le public.
Et je trouve que c'est une définition qui convient super bien, parce que je me rends compte, avec Marin, je te connais bien, je sais qu'on a tendance à discuter tous les deux un petit peu de ce que je fais dans mon travail, et je sais que c'est complètement opaque pour le grand public, et je trouve que c'est quelque chose qui manque complètement, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde qui est technologique, et derrière ces technologies il y a des sciences dures, et ces sciences dures, si on ne les comprend pas, malheureusement, on a des déviations qui sont liées aux usages de ces technologies. Et donc voilà, je pense que c'est super important de pouvoir faire cette passerelle, comme tu le dis, Anna.
Donc nous avons tous des rôles de passeurs ce soir entre les informations et les personnes qui sont en demande de ces informations. Donc c'est effectivement une belle définition. Est-ce que, peut-être pour continuer la question, est-ce que vous voulez un petit peu détailler pourquoi est-ce que c'est si important que de faire ce rôle ? On pourrait considérer que la science au sachant, et puis ensuite ceux qui ça n'intéresse pas peuvent ne pas être concernés ou ne pas se sentir concernés, et donc se dire finalement c'est pas important. Pourquoi est-ce qu'au contraire vous pourriez considérer que si c'est important, dans quelle mesure aussi?
Déjà là on parle de médiation scientifique, mais il y a une médiation dans beaucoup de domaines. Et en fait, la médiation, en règle générale, répond à un certain phénomène. C'est en fait la société est scindée en plusieurs bulles, en plusieurs sphères. Et souvent, pour que une société fonctionne bien, ces sphères doivent communiquer entre elles. Sauf que souvent, on observe que la communication passe très mal entre plusieurs sphères. Pour des raisons multiples, je les ai pas toutes d'ailleurs, Mais le rôle de la médiation est justement de prendre le fond d'un message, d'une bulle sociale, et de l'adapter sous une autre forme qui va pouvoir parler à d'autres sphères sociales qui, de base, n'étaient pas touchées par le message initial. Mmh. Donc le rôle de la médiation, c'est d'adapter sous une différente forme, en fait, le fond d'un message pour que les liens sociaux se fassent entre différentes bulles, et ce qui va permettre à la société de bien fonctionner, qui a besoin de ce lien entre ces bulles-là.
Alors ce qui est génial, c'est qu'en troisième partie d'émission, Félix nous permettra de faire une petite expérience de cette adaptation. Mais alors du coup, là, il faut que j'arrête d'employer le mot du coup, qui est apparemment un mot de 9 langues. Comment est-ce qu'on fait pour justement proposer un message à un autre public? Justement, tu disais qu'il y avait ces petites bulles et qu'il fallait essayer de trouver un autre vocabulaire. Finalement, vous êtes des traducteurs peut-être. Est-ce que on s'adapte à un imaginaire? Est-ce qu'on récupère une façon de parler? C'est quoi la... Comment est-ce qu'on vulgarise?
Déjà, souvent, la connaissance des deux parties est quand même bienvenue, quoi. Savoir qu'est-ce qui va toucher une certaine catégorie de personnes. Qu'est-ce qui va les toucher, qu'est-ce qui ne va pas les toucher, justement, et on adapte justement au public à qui on s'adresse. On ne s'adresse pas de la même manière à des enfants qu'à des jeunes de 20 ans ou à des personnes retraitées. Tout dépend du public à qui on s'adresse.
Et j'ai beaucoup aimé l'analogie du langage qu'on utilise, parce que c'est vrai que typiquement en science, on va utiliser un langage qui est très mathématique. En physique, on va utiliser des mots un peu bruts, voilà, et les physiciens savent ce que ça veut dire. Mais c'est vraiment un exercice de traduction de ces équations, de ces choses qu'on fait vers un langage qui est plus courant, qui peut toucher effectivement, comme tu le disais, différentes tranches d'âge, typiquement différentes tranches de la population.
Et alors en pratique, vous menez des activités les uns, les unes, les autres. Est-ce que vous avez envie un peu de nous présenter la façon dont vous exercez cette médiation scientifique?
Oui, en master, on apprend... en fait, on a pour la plupart une formation scientifique et du coup, en master, on apprend à utiliser les outils vraiment de communication beaucoup, notamment des podcasts, etc. Et on organise donc un colloque sur la place de la pêche artisanale dans l'utilisation durable des ressources en Méditerranée. Et ça fait complètement partie de la médiation, dans le sens où il y a beaucoup d'intervenants, de chercheurs, etc., qui sont très différents. Et donc on les met justement en débat, en fait, et pour donner leurs connaissances et leurs ressources à un public qui n'est pas du tout spécialiste.
Il faut savoir aussi que, enfin, je me permets rapidement, mais en fait, quand on est chercheur dans un domaine très pointu. Par conséquent, on a tendance à être, en quelque sorte, aveuglé par notre domaine. On a tendance à lui donner une importance qui est démesurée par rapport à d'autres et à ne pas forcément connaître très bien les domaines qui sont mitoyens. Et en fait, c'est en comprenant en général l'ensemble du problème qu'on réussit à mieux le résoudre, à mieux le... Voilà, et ces colloques, en fait, scientifiques, c'est aussi une occasion pour ces chercheurs de voir différentes choses qui sont mitoyennes certainement, puisque là, il y a une thématique qui est... une certaine thématique dans laquelle tous ces chercheurs vont travailler, mais à des degrés différents et sur des sujets précis différents. Ça va leur permettre à eux aussi de comprendre mieux le problème qu'ils essayent de résoudre en général.
Et donc du coup... ah là là. Bon, il ne faut pas que j'emploie le mot du coup. Finalement, il y a de la médiation à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous pouvez faire de la médiation auprès d'un public qui n'a aucune base. Vous pouvez faire de la médiation auprès d'un public qui a un niveau intermédiaire de base. Et puis vous pouvez aussi faire de la médiation scientifique auprès d'un public qui a des connaissances assez pointues, mais pas forcément du domaine qu'ils abordent. Ou alors des problèmes qui sont pas très loin, mitoyens, mais pas tout à fait le leur. Et ça demande, j'imagine... un exercice un peu d'accordéon, de savoir s'accorder finalement au public qu'on a face à soi. Comment est-ce que vous arrivez à sentir le fait de pouvoir aller un peu plus loin sans perdre une partie du public ou sans frustrer une autre?
Bah, c'est justement toute la difficulté, moi, je trouve, de la médiation. Puis nous, on est au début de l'expérience, donc c'est vrai que moi, je trouve que c'est vraiment le truc le plus compliqué. Et je pense que ça vient avec l'expérience. Et je ne sais pas si Félix, tu as plus d'expérience que nous, donc peut-être que tu peux...
Alors, peut-être un petit peu plus, mais pas beaucoup, dans le sens où, effectivement, bah, tu t'es trompé, mais pas trop dans le début, dans ton introduction. Mais en fait, effectivement, j'interviens beaucoup auprès de collégiens ou auprès de publics, voire même en école primaire. Et c'est vrai qu'il faut trouver des mots qui sont différents, ne serait-ce que au niveau de la tranche d'âge, primaire, collège, on n'a pas du tout forcément les mêmes connaissances, les mêmes préacquis, on va dire. Et pareil, j'ai jamais fait de colloque en tant que chercheur, en tout cas, pour l'instant, mais effectivement, on n'adopte pas du tout le même langage. Ça rejoint ce que disait Vincent tout à l'heure, c'est des bulles sociales, on va dire, qui ont leur langage propre. Mais d'un autre côté, les chercheurs, on a quand même ce langage mathématique, ce langage physique qui est concomitant. Donc, il ne faut pas non plus prendre les gens pour des cons quand on fait ça. Je ne vais pas faire la même intervention quand je parle de ma recherche à des collégiens, évidemment, que quand j'en parle à des chercheurs. Là où ça va être pour moi vraiment un point de basculement, ça va être essayer de captiver l'attention en essayant de comprendre qu'est-ce qui intéresse en fait l'auditoire. Par exemple, en avril, j'ai eu une conférence avec des pairs donc, qui connaissent le sujet, les méthodes numériques que j'utilise, sans vous assommer de mots grossiers, qui connaissent le sujet de ma thèse, plus ou moins. Et forcément, je vais adapter un langage qui va être beaucoup plus dur que quand j'essaye de présenter ça à des classes de collège. Tu posais la question tout à l'heure des interventions qu'on fait. En fait, donc avec la cellule de culture scientifique et technique d'Aix-Marseille Université, on a plusieurs actions. Donc j'avais rencontré Anna grâce à la nuit des chercheurs qui a eu lieu récemment. J'ai rencontré Vincent au préalable avec, c'était quoi? C'était les cordées?
Les projets de la cordée de la réussite.
Voilà, les cordées de la réussite. Donc la nuit des chercheurs, c'est un événement qui est complètement grand public où chacun va expliquer un petit peu ce qu'il fait dans un contexte qui était par ailleurs très très sympa. Les cordées de la réussite, c'était prendre une classe de collège et leur faire vivre un petit peu la vie de chercheur avec 5 séances différentes. Leur faire faire une expérience, leur faire les initier à la démarche scientifique au moyen d'une expérience. Par ailleurs, j'interviens aussi sur un dispositif qui s'appelle chercheur en classe. Donc en fait, je vais dans des classes de collège et je vais leur raconter ce que je fais, je leur explique mon parcours et j'essaye de leur faire comprendre ce que j'essaye de faire dans ma recherche. Donc là, effectivement, en fonction du niveau des collèges ou en fonction même de si j'ai des sixièmes en face de moi ou des troisièmes, ça ne va pas se passer du tout pareil. Et enfin, le dernier dispositif sur lequel j'interviens, c'est des ateliers, en fait. On a des ateliers. Donc moi, j'anime des ateliers sur les énergies renouvelables. Ça se fait dans le cadre au CST, donc à la CST plutôt, à la cellule de culture scientifique. Et donc on a des salles qui sont faites pour, avec du matériel qui est là tout le temps, dont on peut se servir pour montrer certaines choses, qui permettent de faire des expériences, qui permettent de rendre les choses beaucoup plus visuelles. Et ça, c'est un aspect, je pense, très important, en fait. Réussir, donc c'est là que le challenge sera dans la dernière partie d'émission, puisque je ne vais rien pouvoir vous montrer, mais enfin... réussir à montrer des choses, qu'on les voit avec les yeux, qu'on les perçoit avec nos sens, je pense que c'est tout à fait pertinent, parce que ça permet à l'imagination de bien mieux comprendre. En fait, en tout cas, ça nous permet de bien mieux comprendre, je pense, plutôt que des équations brutes qu'on ne comprend pas quand on n'est pas un initié.
Merci pour cette explication. Et alors, j'ai une dernière question avant la pause musicale. C'est, est-ce qu'il y a une intention à la médiation scientifique? Est-ce que c'est pour le plaisir de la science ou est-ce que c'est pour amener son auditoire dans une certaine direction? Notamment là, on est sur l'émission Écoforum par rapport à des questions de justice sociale et de transition environnementale. Est-ce que c'est un angle que vous prenez ou qui est conseillé de prendre ou pas?
Chacun a ses motivations, en fait. Moi, c'est plutôt pour faire parler mon côté créatif pour une cause, justement, qui me tient à cœur, c'est-à-dire d'ouvrir un peu les... de faciliter ces échanges entre bulles, comme je l'ai expliqué, mais aussi d'exprimer mon côté créatif. Par exemple, en ce moment, j'écris une série audio sur le changement climatique. Mmh. Et la médiation scientifique est un domaine qui me permet justement de faire ces projets-là, justement. Ces projets créatifs, avec un fond derrière quand même. C'est pas simplement du divertissement.
Avant de donner la parole à nos autres invités, tu veux nous présenter le titre de ces...
Alors, c'est vraiment sous... le scénario était écrit. Là, on écrit vraiment scène par scène, donc il n'y a pas de titre vraiment. C'est une série fictive.
D'accord. On veut la retrouver
Alors, c'est aujourd'hui en projet avec l'OSUPITEAS,
okay.
Donc une sous-branche du CNRS. Mais pour le moment, elle est vraiment en cours d'écriture.
Ok, et eh bien du coup, surprise pour plus tard, surprise pour plus tard, et peut-être que tu auras l'occasion de revenir ici pour nous la présenter. Est-ce que vous avez envie de nous répondre aussi à cette question, Anna et Félix, avant la pause, de nous dire un peu l'intention que vous mettez derrière le fait de faire de la médiation scientifique?
Moi, c'est pour essayer de donner le maximum de clés aux gens, parce que pour moi, la science, je trouve que c'est un peu la base de tout. Et pour comprendre le monde, c'est quand même important. Et du coup, c'est important que les gens sachent ce qui les entoure, quoi, pour essayer de... Et ça, c'est important pour leur... Enfin, pas forcément dans la science, mais juste dans leur vie à eux personnelle aussi. Enfin, je sais pas comment le dire, mais c'est des clés importantes à avoir, je trouve.
Mais moi, en fait, c'est, tu le sais, Marin, puisqu'on se connaît bien, mais je suis très bavard. Et en fait, j'ai été assez vite confronté à un problème, c'est que dans ma famille, personne n'est scientifique. C'est-à-dire que personne n'a fait jusqu'au bac, etc. Personne n'a poursuivi d'études dans ce domaine-là. Donc en fait, si je voulais raconter ma journée, si je voulais discuter avec ma famille à table, il a fallu très vite que je me mette à... expliquer ce que je faisais. Puis par la suite, en grandissant, je me suis rendu compte que effectivement, la science, ça me passionnait, mais comme tu le disais, Anna, c'est omniprésent dans notre vie parce que on vit dans un monde technologique, parce que derrière, c'est omniprésent aussi dans la vie politique, puisqu'il faut comprendre le problème, typiquement les problèmes écologiques pour réussir à les résoudre d'une façon plutôt pas technologique si possible, mais en tout cas d'une façon ou d'une autre. Et donc en fait, comme tu le disais, en fait, pour comprendre pour comprendre ces phénomènes et trouver des solutions, il faut les comprendre. Et pour les comprendre, il faut qu'il y ait des gens qui parlent ce langage abstrait et bizarre qu'est la mathématique, que sont les mathématiques et la physique, et qu'ils le traduisent dans un langage compréhensible, et les preneurs de décision, déjà que le public soit averti de ça pour choisir les bons politiciens pour y répondre, mais aussi que ces politiciens comprennent le problème, en fait. Hein. Et je pense que c'est là tout l'enjeu, en fait. C'est presque une démarche politique que de discuter de science avec des gens qui n'y connaissent rien. Peu.
Effectivement, tous les quatre, quels que soient vos domaines, vous avez un rôle de passeur. Vous créez des ponts, vous essayez de détruire les murs, que ce soit vous, Hamid, sur le volet social, et puis Anna, Vincent, Félix, sur une approche plus scientifique. Et pourtant, Félix, on parle de construire des ponts et de détruire des murs. Ce n'est pas forcément la musique que tu as choisi de nous faire écouter pour cette pause musicale. Je te laisse nous l'annoncer.
Bien sûr. Alors, j'ai choisi Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Et en fait, je l'ai choisi, cette chanson, parce que vous en connaissez certainement le refrain. C'est « We don't need no education ». Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, cette phrase, c'est pas une... faute d'anglais. C'est en fait effectivement les Pink Floyd à l'époque qui expliquent qu'on n'a pas besoin d'une non-éducation. Et je pense que dans beaucoup de choses qu'on nous raconte, pas forcément en termes de science, mais la façon dont la société évolue, encore une fois, toujours plus technologique, etc., on nous inculque des choses qui sont pas forcément des choses qui sont désirables à mon sens en tout cas, et c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson, et puis aussi parce que c'est rigolo pour un chercheur, quelqu'un qui vise d'avoir un bac plus 8 un jour peut-être, de nous dire qu'on n'a pas vraiment besoin d'une éducation si on comprend mal ce refrain.
Merci, à tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous, et vous êtes toujours sur Radio Galère sur le 88.4 dans l'émission Écoforum, l'émission qui donne la parole aux actrices et aux acteurs des transitions environnementales, sociales et culturelles à Marseille et sa région. En première partie, nous recevions Hamid qui nous parlait des différents dispositifs qu'il met en place avec le collectif des habitants organisés du 3e arrondissement pour aider les personnes qui sont demandeurs de papier. Et dans la deuxième partie, nous recevions et nous recevons toujours Anna, Vincent et Félix qui nous parlent de médiation scientifique. Et dans cette dernière partie d'émission, ce qu'on s'est dit, c'est que ça pouvait être une bonne idée que de vous faire vivre l'expérience avec nous, avec vous, de ce que c'est que la médiation scientifique. Et Félix, qui est plutôt taquin alors que j'ai une voix cassée, a décidé de choisir le sujet du son. Félix, je te le laisse un peu prendre la main d'une certaine façon. Je suis l'animateur, mais je vais être celui qui, comme nous toutes et tous autour de cette salle, allons rentrer dans la discussion que tu vas nous proposer.
Ben, tout à fait. Alors moi, je vous propose de parler un peu du son pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est la radio, parce qu'on vient de passer la pause musicale, parce que je suis un peu musicien. Ce sera un gros mot de dire que je suis musicien, mais en tout cas, je touche un petit peu des instruments. Et c'est un sujet qui me passionne. J'ai animé un petit atelier en tant que bénévole sur le son qui s'appelle « Regarder des sons ». Et du coup, c'est plein de petites expériences qui permettent de visualiser ce que c'est qu'un son. Je vais essayer de vous faire imaginer ce que c'est qu'un son, puisque vous ne pouvez pas me voir, heureusement ou malheureusement. Vous allez le découvrir. Donc j'invite...
Sens, c'est bien.
Voilà. Et j'invite du coup les personnes qui sont avec moi là autour de la table à me poser des questions, à évidemment m'interrompre si vous avez l'impression que je suis un peu trop rude, scientifiquement parlant. J'avais envie de vous expliquer ce que c'est qu'un son. Et pour ça, il va falloir que je commence par qu'est-ce que c'est que l'air ? Alors, c'est une vaste question, mais il faut s'imaginer que, vous le savez en fait, vous le savez, on n'est pas l'air, ce n'est pas du vide, puisque l'espace, c'est du vide, c'est-à-dire qu'au-dessus, loin des planètes, loin de la Terre notamment, on a du vide. Mais l'atmosphère qui entoure la Terre, en fait, ce sont plein de petites particules, beaucoup d'azote, pas mal d'oxygène, et plein de petites autres choses, de la vapeur d'eau, des gaz nobles notamment. Et donc ces petites particules, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles ont tendance à s'entrechoquer, et à certains endroits, on va avoir plus de particules que d'autres, et c'est les endroits où il va régner une plus forte pression. La pression, c'est facile à s'en rendre compte si vous avez déjà été à la piscine et que vous avez déjà essayé de nager le plus bas possible. Vous vous rendez bien compte que les particules d'eau qui sont au-dessus de vous, elles vous écrasent un peu. Vous sentez ce poids sur votre cage thoracique notamment. Et en fait, il faut bien se rendre compte que cette pression, les particules d'eau, elles ne la ressentent pas tout à fait comme nous, mais en tout cas, elles sont plus serrées les unes avec les autres. Donc en fait, c'est ça la pression, ça va être un endroit où il va y avoir plus de particules qui sont agglomérées que d'autres. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? C'est assez simple en fait, enfin assez simple mais pas tellement non plus. En fait, le son, ça va être une onde de pression. C'est-à-dire qu'on va avoir des particules qui vont se rapprocher les unes des autres et s'éloigner les unes des autres à une certaine fréquence, c'est-à-dire un certain nombre de fois par seconde. Et c'est cette onde de pression qui va se déplacer, qui va parvenir dans nos oreilles. Donc vous savez que les oreilles, vous avez tout le cartilage qui se trouve autour des oreilles va jouer un petit peu un rôle de parabole. Ça va faire vibrer vos tympans et derrière activer les mécanismes de l'oreille interne qui vont permettre de transmettre ce son aux nerfs auditifs. En fait, ces ondes de pression, vous pouvez les voir un petit peu comme des vagues. C'est-à-dire qu'à certains endroits, il y a des crêtes et à d'autres endroits, des creux. Donc on peut imaginer que dans les crêtes, ce sont les endroits où il y a le plus de pression, dans les creux, ceux où il y en a le moins. Et c'est cette variation de pression en fait, qui va faire donc vibrer vos tympans. C'est un peu le son, c'est finalement une histoire de vibration moléculaire. Je ne sais pas si c'est tout à fait clair, n'hésitez pas...
On se fait la représentation, puisque tu nous invites à voyager sans visuel, de la représentation des vagues qui montent et qui descendent, avec parfois des vagues qui font du petit flapotis, puis un moment où c'est vraiment la grosse tempête. Est-ce que finalement, beaucoup de nos interactions réagissent comme ça, que ce soit sur le son ou sur d'autres formes d'énergie? Dis-toi que tu parles un non-scientifique, donc c'est le moment de répondre à mes questions, de me dire que ma question n'est pas bête, même si elle l'est.
Elle ne l'est pas du tout. Et d'ailleurs, c'est super drôle parce que tu as touché du doigt une caractéristique fondamentale des ondes quand tu as parlé de ces vagues qui sont soit des petits clapotis, soit des grandes vagues, en fait. Ça va être leur amplitude. Donc effectivement, quand on parle d'une vague en soi, mais d'une onde dans le domaine de la physique, on a deux caractéristiques, en fait, classiques, entre guillemets. Ça va être l'amplitude, donc la différence de hauteur entre les creux et les crêtes, et leur fréquence, c'est-à-dire tous les combien de mètres il va y avoir une onde. Il y a une autre chose qui est assez intéressante avec cette histoire de vagues, c'est que je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de mettre un bouchon dans une bassine et de faire un petit peu des vagues. En fait, le bouchon, si vous faites vos vagues pas trop mal, il va juste monter et descendre, et la vague va le traverser, mais ce bouchon ne va pas avancer ou reculer, ou alors très peu, il va osciller autour d'un endroit en particulier. En fait, c'est ce que font les particules d'air. Quand je te parle, ces particules vibrent, mais ce ne sont pas les particules qui sortent de ma bouche qui arrivent dans ton oreille. En fait, c'est qu'elles se déplacent de proche en proche, et de proche en proche, elles se font vibrer, et c'est ce qu'on appelle une onde stationnaire. C'est qu'en fait, l'onde ne va pas vraiment bouger.
C'est un peu comme les billes qui, quand il y a 5 billes qui se tapent, il y en a une qui tape et puis c'est la 5e qui part.
Exactement, ça c'est, tu parles du pendule de Foucault et c'est tout à fait ça. C'est, bah, pas tout à fait, mais en fait oui, il y a une histoire comme ça, ouais. Tout à fait. Et alors, j'ai perdu le fil évidemment. Parce que je
disais que ça ne bougeait pas, c'était stationnaire parce que ça allait de proche en proche.
Exactement. Et donc, on imagine bien que, contrairement au pendule de Foucault, ou d'ailleurs tout comme le pendule de Foucault, si tu laisses ton pendule taper un certain nombre de fois, au bout d'un moment, il va arrêter de bouger. Et bien, c'est exactement ce qui se passe avec le son si tu te trouves trop loin. C'est qu'en fait, ces molécules d'air, elles vont bouger les unes de proche en proche par rapport aux autres, mais au bout d'un moment, ça va s'atténuer. Et c'est ce qui fait qu'on entend moins quand on est plus loin, tout simplement. Par ailleurs, il y a une deuxième chose qui est intéressante là-dedans, c'est la vitesse à laquelle le son se déplace. En fait, ce qui est intéressant, c'est de constater que... C'est difficile à constater en réalité parce que la vitesse du son dans l'air est déjà extrêmement élevée pour nous les humains. C'est de l'ordre de 300 mètres par seconde, ça fait à peu près 900 km/h si je ne dis pas de bêtises, un peu plus. Mais donc c'est difficile à expérimenter, mais en fait la vitesse du son est plus élevée dans un liquide que dans un gaz et plus élevée dans un solide que dans un liquide. Par contre, elle s'atténue plus vite. Si je dis pas de bêtises, je suis pas tout à fait sûr de mon coup, mais il me semble que quand même, j'ai des petits sourires là. Non.
J'écoute. Pas de...
On t'écoute, Félix. Continue. Tout va bien.
C'est le fait. Je crois que d'expérience, on entend le son plus fort quand on est sous l'eau que quand il va y avoir un boom. Ça va être beaucoup plus résonant sous l'eau que dans l'air.
Ok. Donc j'ai dit une bêtise. C'est possible, hein. Et c'est auquel cas j'aurais dit.
Non, je sais pas.
Si tu as la même distance et que tu... Non, c'est simplement que l'information t'arrive plus rapidement. C'est-à-dire que si tu claques des doigts, enfin, mettons, si tu fais exactement le même son dans l'air et sous l'eau, normalement, tu vas l'entendre avant sous l'eau. Et c'est pour ça que je disais que la différence est imperceptible pour nous parce qu'on est sur des échelles de temps qui sont très courtes. Si tu te mets à, je sais pas, 2 mètres de moi. Tu vois, 900 km/h, ça va être beaucoup trop petit, quoi. Enfin, beaucoup trop rapide. Et à l'inverse, ça va être du coup 1500 m/s, donc 4500 km/h dans l'eau à peu près. Ça va être beaucoup trop rapide pour que tu sentes la différence. Voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. Tu parlais des ondes en général. Et effectivement, Marin, il y a plein de phénomènes, dont notamment la radio, qui fonctionnent avec des ondes. Alors, c'est pas forcément des ondes sonores. Même si, effectivement, si vous m'entendez, c'est parce que vous avez une radio qui produit une onde sonore et qui vous parvient à votre oreille. Mais ce qu'utilise la radio pour transmettre entre l'antenne et votre récepteur radio, ça va être des ondes qu'on appelle électromagnétiques, qui ne mettent pas en cause la vibration de l'air, mais du coup un champ magnétique, et voilà, qui vont transmettre une certaine énergie via ce champ magnétique. Et des ondes, il en existe, donc, notamment les ondes électromagnétiques, il en existe de plein d'énergies différentes qui vont donner des rayons gamma, qui vont donner de la lumière visible, qui vont donner de l'infrarouge ou de l'ultraviolet, en fonction de leur longueur d'onde, donc de la distance entre deux crêtes successives de notre vague. Donc ça, c'est un phénomène qui est assez intéressant. Il y a autre chose, puisqu'on parle des ondes sonores aussi, il faut savoir que nous, on a notre oreille, elle est capable d'entendre qu'une certaine plage de fréquence. Ça va de 20 à 20 000 Hz. Donc un Hz, c'est une vibration par seconde, en fait. Donc 20 à 20 000 Hz, ça veut dire que on est capable d'entendre quand les molécules qui arrivent à nos oreilles vibrent 20 fois par seconde jusqu'à 20 000 fois par seconde. Au-delà, ce sont des ultrasons. Donc nous, on n'est pas capable de les entendre, mais par contre, il y a des animaux comme les chauves-souris qui s'en servent pour se déplacer, ou comme les dauphins qui s'en servent pour communiquer. Et en dessous, ce sont des infrasons. Il y a d'autres animaux comme les baleines ou les éléphants qui se servent de ça. D'ailleurs, petite anecdote assez ludique, c'est que les éléphants, typiquement, sentent les tsunamis arriver parce que ceux-ci génèrent des infrasons qu'eux sont capables d'entendre alors que nous, non. Et c'est pour ça que, typiquement, quand les éléphants courent en direction opposée de la plage, vaut mieux courir avec eux, parce qu'en général, c'est quand un tsunami arrive. Voilà, c'est pas trop applicable à Marseille, enfin en tout cas j'espère pas pour les quelques prochaines
apparemment,
années.
Apparemment, d'ici 2030, il y a 100 ou 2050 je crois, 100% de chances qu'un tsunami touche la ville de Marseille. Mais bon, ça c'est un autre domaine, il n'y a pas d'éléphant à Marseille.
Malheureusement.
Il nous reste 5 grosses minutes, peut-être que pour finir sur la question des ondes et du son, avant de donner les dernières, vous rappeler les différentes dates qui ont été données au cours de cette émission, on peut parler de ce que c'est que la pollution sonore. Est-ce que toi qui parlais du fait que il y a des ondes qu'on n'est pas capable d'entendre, soit parce que on est en infrasons ou en ultrasons, est-ce que la pollution sonore, c'est une espèce d'embouteillage d'ondes qui arrivent et qui sont tellement nombreuses que finalement ça passe un palier? C'est quoi la définition? Est-ce que c'est quelque chose de psychologique? Est-ce que c'est quelque chose qui est étudié aussi?
C'est certainement quelque chose qui est étudié. J'avoue que je maîtrise mal le sujet. Mais de prime abord, je dirais qu'il y a plusieurs composantes. Déjà, dans ce qu'on entend, il y a effectivement le fait que... Et ça, je pense qu'on s'en est tous rendu compte quand on va en vacances à la campagne. On est plus calme, on est plus serein parce qu'en fait, on est moins envahi de son.
Moins stimulé.
Voilà, moins stimulé. Et en fait, il faut bien comprendre que nous, consciemment, on analyse ce qu'on écoute. Mais en fait, notre cerveau, inconsciemment, il décode aussi ce qu'on entend. C'est ce qui va nous permettre d'éviter une voiture de justesse parce qu'on a entendu le gros coup d'accélérateur ou de se retourner brusquement parce qu'on entend un gros coup de frein. Mais derrière, il y a tout le bruit environnant de la ville, les gens qui parlent, etc. Si vous habitez à côté d'un aéroport ou, je ne vous le souhaite pas, à côté d'un pas de tir de fusée, il y a des énergies colossales sonores qui sont mises en jeu et qui viennent fréquemment. Si vous habitez, comme moi, pas trop loin d'un arrêt de tram, vous entendez les chauffeurs s'énerver devant les passants qui passent pas assez vite devant le tram. Y a tout ça. Et derrière, faut bien se rendre compte que c'est pas parce que... Alors, je suis pas sûr de ce que j'avance. D'ailleurs, c'est très scientifique de ma part de le dire, parce que il faut le dire quand on est scientifique qu'on ne sait pas.
Et que quand on est scientifique, je pense.
Effectivement, mais en l'occurrence, même en science, des fois on ne sait pas, et là je ne suis pas sûr, mais j'imagine que des ondes acoustiques qu'on n'est pas capable d'entendre, donc du son, de l'infrason ou de l'ultrason, qui nous bombardent, peuvent avoir un effet sur le corps, dans le sens où ce sont des ondes qui nous traversent, qui nous touchent, qui viennent nous frapper. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait vous en rendre compte si vous allez dans un concert et que vous vous mettez devant les baffles. Vous sentez que votre ventre y vibre. Et ça, c'est pas lié à votre oreille. Et c'est la même chose, j'imagine, avec si on a une pollution infrasonique ou supersonique trop importante, j'imagine que tout ça, ça rentre d'une façon ou d'une autre dans notre corps. D'ailleurs, je voulais faire un petit... ça m'a fait penser tout à l'heure quand je parlais de la radio, pour illustrer vraiment le fait que les ondes sonores sont une espèce de compression et de détente de ces molécules d'air là, de proche en proche. En fait, le principe du haut-parleur, c'est littéralement ça. C'est-à-dire que vous allez mettre une espèce de membrane en vibration, et c'est celle-là qui va exciter les ondes sonores.
Et puis la semaine dernière, on parlait d'écologie intérieure, et donc le fait que être en harmonie avec le monde nécessitait aussi d'être en harmonie avec soi-même, et avec l'explication que tu nous as donnée de la façon dont notre oreille est capable d'écouter des sons dont on a parfois consciemment envie de les écouter, et puis aussi tout ce qu'on prend en termes de pollution, finalement ça vient nous stimuler, parfois nous polluer. Que ça soit des ultras, des infrasons, comme tu viens de nous le dire, ou même parfois juste des bruits qu'on peut capter par-ci, par-là, et qui peuvent participer ou non à la qualité de notre écologie intérieure, du fait d'être dans le calme ou non. En tout cas, pour ce qui me concerne, en habitant en plein centre-ville de Marseille, j'ai souvent des aspirations très fortes le week-end d'aller me plonger dans le silence, ou alors d'avoir des sons qui sont plus harmonieux, notamment le son des vagues. C'est dommage parce qu'on pourrait en parler pendant encore longtemps, et pourtant on arrive déjà à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Félix, pour cette petite mise en bouche de ce que c'est que la médiation scientifique. Et juste avant de rendre l'antenne, peut-être qu'on peut rappeler aussi le colloque que vous organisez, Anna et Vincent, qui arrive très vite, puisque c'est le 8 décembre, et qui tourne aussi toujours autour de médiation scientifique, toujours autour de la mer, mais cette fois pas avec les vagues, plus sur la question de la pêche. Je vous laisse nous le rappeler avant de rendre l'antenne.
Exactement, donc c'est un colloque sur la pêche artisanale en Méditerranée, le 8 décembre à la faculté de Saint-Charles, sur inscription. Donc il faut aller sur le site de notre master en médiation scientifique à l'Aix-Marseille Université pour s'inscrire et pour pouvoir rentrer sur la fac, parce que si on n'est pas étudiant, on ne peut pas rentrer. Sinon il sera aussi en live diffusé sur YouTube, pareil sur la chaîne de notre master. Et voilà.
Eh bien, merci. On espère, je l'espère en tout cas, que de nombreuses et nombreux auditeurs et auditrices qui nous écoutent prendront le temps de s'inscrire à ce colloque qui a donc lieu le 8 décembre prochain. Et puis, merci à vous trois. Merci, Félix, pour vos explications sur ce qu'est la médiation scientifique, et puis pour cette mise en bouche qui, nous l'espérons, vous donneront envie de continuer à découvrir le vaste monde.
Merci à toi, Marin.
Merci.
Merci.
On rend l'antenne. Bonne soirée.